Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Aujourd'hui dans le Rendez-vous Tech, en open source, une catastrophe évitée complètement par hasard, une IA qui engloutit tous les textes du web et de YouTube, et Apple qui invente la téléportation, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Alors en intro, j'ai dit tout de suite dans le Rendez-vous Tech, et puis à la fin, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Haute grave, je pense. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja. Je suis très heureux de vous accueillir pour cet épisode 560 du Rendez-vous Tech, pour lequel se joint à moi l'inénarrable Cédric Ingrand. Comment vas-tu, Cédric? J'essaie de trouver de nouveaux adjectifs à chaque fois.
Oui, je sais que c'est compliqué d'essayer de trouver des trucs nouveaux à chaque fois, surtout au bout de 565 épisodes, mais je ne me savais pas inénarrable, mais c'est un plaisir.
Alors, inénarrable, est-ce que ça veut dire que tu n'es pas nénarrable? Est-ce que c'est ça, en fait?
Non, tu n'es pas. Non, je pense que c'est inénarrable, ça veut dire une personnalité si complexe, c'est difficile de la décrire, c'est ça, voilà.
Bah oui, c'est donc pour ça que ça me semblait adapté à l'excellent Cédric Ingrand. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci également aux Patriotes qui ont rejoint l'émission. Krusty42, Corentin Lallier, Nuggets. Est-ce que c'est des nuggets genre achetés au Monop ou est-ce que c'est des nuggets du McDo? On ne sait pas. Peut-être qu'il nous le dira dans une prochaine update. Arnaud VG.
Des nuggets coréennes, tu vois, artisanales.
Je ne sais pas. Possible aussi. Il y a plein de possibilités. Donc, Arnaud VG, Vincent Mater et Stilgar, merci à vous tous d'avoir rejoint le Patreon du Rendez-vous Tech. Merci également aux producteurs Eric Bastin et Vincent Bounour, les nouveaux producteurs qui ont également, surtout Vincent, qui ont rejoint le Rendez-vous Tech. Si vous voulez faire comme tous ces formidables auditeurs et auditrices, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais en attendant, il y a alors plein de sujets intéressants à traiter. Je voudrais juste, avant qu'on se lance, faire un petit, advisory pour la semaine prochaine et possiblement jusqu'à la fin du mois. Le programme risque d'être un petit peu perturbé, le programme des enregistrements. Je ne voulais pas trop continuer à parler. Je vous ai assez embêté avec les histoires de coups de pelle. J'ai fait un petit message sur Discord si vous voulez les détails, donc des petits problèmes qui nous sont tombés dessus il y a quelques semaines, 2 mois de ça maintenant. En gros, ça va moyen. C'est comme je disais, c'est stable, mais pas top. Et il y a parfois des petits trucs où on se dit « Ok, là, ça va aller mieux. » Et en fait, non, paf, ça va un peu moins bien. Donc, ça fait 2 mois que ça dure. C'est pas évident. Et donc, bref. Comme je disais, je ne veux pas en faire trop. Si vous voulez les détails, il y a sur le Discord un petit peu plus de détails. Mais ce que ça veut dire, c'est que les semaines qui viennent, je vais voir comment je vais faire. Il risque d'y avoir des épisodes un petit peu allégés, où il n'y a que moi qui traite un peu moins d'actualité, des épisodes peut-être même annulés potentiellement pour le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu. On verra comment ça se passe. J'espère que ça ne durera pas, parce que je continue à espérer, à penser que ça va s'arranger tout ça. Mais là, il faut que je ralentisse un petit peu la cadence. Donc voilà, vous êtes prévenus. Encore une fois, si vous voulez les détails, il y a plus d'infos sur le Discord. Et vous avez les notes dans les notes de l'émission, le lien vers le Discord et tout ça. Et sachez d'ailleurs que le Discord est un lieu formidable où on se sent bien, contrairement peut-être à d'autres lieux sur Internet. Et vous y avez votre chaise. Vous savez, vous qui écoutez là, qui vous dites « Oh, peut-être que je ne sais pas, j'aime pas tel réseau social. » Eh bien, il y a une chaise avec votre nom qui est sur notre Discord. Et vraiment, c'est pas genre il y a 2 chaises ouvertes et puis les 2 premiers qui les prennent, c'est fini. Non, vous qui écoutez, c'est quoi votre nom? Genre Michel, Jean-Jacques, Jacqueline, Hugo, Louise. Eh bien, il y a une chaise avec votre nom sur le Discord. C'est quand même étrange de ne pas y aller, non? Bref, moi je dis ça, je dis rien. Mais voilà pour le house cleaning, housekeeping. Et je voulais aussi remercier les auditeurs et les auditrices. J'ai mentionné, pas vraiment en passant, mais enfin le test que je suis en train de faire sur WhatsApp avec les canaux de diffusion WhatsApp. Tu connais les canaux de diffusion WhatsApp, Cédric, ou pas?
Alors oui, j'en ai vu passer. J'ai vu surtout des gens, des créateurs de contenu, etc., qui soudain te mettent un lien. Oui, rejoignez-moi sur mon canal de diffusion, tout ça. Donc,
et bah figure-toi que
WhatsApp est bien en train de devenir la everything app, tu vois.
Un petit peu, ouais, un petit peu. Et il y a littéralement des centaines de gens qui ont rejoint le canal de diffusion. Et ça me fait très plaisir, évidemment. Moi, je pensais qu'il y aurait, je sais pas, 50 personnes, j'aurais été content. Et vous êtes plus de 300. Donc, du coup, maintenant, je vais l'alimenter. Mais c'est cool parce que c'est un système qui me convient. Enfin, j'en parlais la semaine dernière, je ne vais pas en reparler longtemps. Mais il y a, en fait, plusieurs personnes qui ont commencé à parler de changements de rapport entre les créateurs de contenu et leur audience et ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai regardé hier une vidéo de Jack Conti qu'il a fait à South by Southwest. Tiens, il faut que je pense à la mettre dans la newsletter. Elle était super intéressante et il parle de la manière dont les créateurs de contenu, les artistes, les podcasteurs, les youtubeurs, etc., entretiennent une relation avec leur audience. Et ça rentre un petit peu dans le cadre d'une réflexion plus globale que je me fais sur tout ça. Et je la mettrai donc cette vidéo dans la newsletter, mais peut-être qu'il faudra que je trouve le temps d'en parler dans un petit édito, ou peut-être même que ça sera un épisode spécial à la place du Rendez-vous Tech, parce que ça concerne la création sur Internet. Donc peut-être que je ferai ça à un moment, mais c'est hyper intéressant, la manière dont tout ça évolue et la manière dont la relation entre moi et vous évolue. Et c'est marrant parce que je titrerai la dernière newsletter « À bas les algorithmes » et j'avais pas vu la vidéo de Conti, et c'est pas exactement ce qu'il dit, mais en gros, il parle de la manière dont les algorithmes affectent non pas la relation entre les créateurs et l'audience et les fans, mais la création elle-même. Et j'avoue que je me suis un poil reconnu dans ce qu'il disait, le fait de créer non pas parce que c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on aime faire, et ce que les super fans voudraient, mais pour coller aux algorithmes. Et en fait, bah, j'en reviens à l'histoire de WhatsApp. Des petits tests que j'ai faits jusqu'à maintenant, j'aime beaucoup le type de création que je fais pour ce canal qui n'a pas d'algorithme, qui n'a pas de machin. Donc, bref, on remettra le lien. Fanny, si tu m'entends, on remettra le lien jusqu'à ce que je... Peut-être qu'il faudrait le mettre juste dans la liste des liens tout court du canal WhatsApp, mais pas encore, parce que c'est encore en test. Je ne sais pas si ça sera là sur la durée. Mais on remettra le lien, et puis si vous voulez rejoindre avec tous les autres, c'est sympa, vous pouvez mettre des emojis pour répondre aux messages que je fais. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc, ceci dit, on va commencer les infos de la semaine. C'est parti. Et la première info de cette semaine, en fait, c'est une info qui date de la semaine dernière, je crois, et que j'avais décidé de pas traiter, et qui, après réflexion, vaut sans doute le coup d'être détaillé. Ah ouais. Que s'est-il passé ? En fait, c'est une histoire d'espion, une histoire d'OS rendu vulnérable, d'opérations sans doute d'un État étranger sur plusieurs années, et d'une découverte complètement incroyable de cette backdoor, par hasard, par un ingénieur qui n'avait rien à voir avec la recherche en sécurité, qui était juste énervé qu'un truc prenne 0,5 secondes de trop sur son ordinateur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, on a découvert une backdoor dans un outil qui s'appelle XZUtils, qui est une brique logicielle qui est utilisée dans d'autres outils, qui sont utilisés eux-mêmes dans d'autres outils, qui sont utilisés, qui font partie intégrante d'OS, de système d'exploitation, qui sont très utilisés. On parle essentiellement de Linux, mais pas forcément que Linux, mais plusieurs distributions de Linux ont été affectées. Et en fait, le truc qui a rendu ça possible, c'est que ce XZUtils est un logiciel, comme beaucoup d'autres logiciels utilisés dans ces OS, c'est un logiciel open source, qui est développé par un tout petit groupe, peut-être même un développeur, qui le fait depuis des années, qui est épuisé. Enfin, le petit groupe, en tout cas, ils le font depuis des années, ils sont vraiment fatigués. Et il y a eu donc une personne qui s'est, pendant plusieurs années, pendant 2 ans, qui s'est accoquinée, enfin, accoquinée, je dis ça, qui s'est rapprochée de l'équipe de développement et qui a commencé à contribuer, comme c'est tout à fait possible avec l'open source, hein, on fait un commit, on contribue du code à ce petit logiciel qui s'appelle donc XZUtils. XZUtils, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais en gros, c'est un outil de compression-décompression qui est notamment utilisé par SSH, qui est un protocole de connexion sécurisé. Et le SSH, il est utilisé notamment sur, sous Linux, et il y a l'implémentation de SSH de la plupart des Linux qui utilise XZUtils. Et le truc qui est intéressant, c'est que XZUtils, c'est un tout petit morceau. Comme je le disais, il est développé par une toute petite équipe. C'est souvent des outils qui sont développés par une personne, deux personnes, trois personnes et maintenus pendant des années et des années. Et c'est un petit truc auquel on ne prête pas tellement attention. Mais ce genre d'outils devient vite essentiel au fonctionnement du tout auquel ils sont intégrés, que ce soit les outils dont ils sont un composant ou même les OS dans lesquels ils sont utilisés. Et donc, une attaque sur cette première brique de l'implémentation logicielle peut se retrouver à toutes les échelles de projets open source. Et c'est ce qui s'est passé donc avec XZUtils. Un développeur qui en fait n'existe pas, que, comment il s'appelle déjà, Gia...
GiaTech75.
Voilà, GiaTech75, qui est Gian... bon, le nom peu importe, parce que le nom importe peu, parce que la personne n'existe pas. Et il a commencé à contribuer des updates tout à fait légitimes pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et puis au bout d'un moment, il y a même d'autres commentateurs qui, sur les mailing lists, ont envoyé des commentaires en disant ah ben quand même, il faudrait que XZUtils soit updaté plus rapidement pour pousser le développeur à faire rentrer dans l'équipe plus officielle ou même lui confier ce fameux GIA. Et c'est ce qui s'est produit. Et au bout de 2 ans, la personne a installé par petits bouts une backdoor qui, du coup, s'est retrouvée dans XZUtils partout, qui n'a pas été repérée parce qu'elle a été installée par petits bouts et en désactivant un truc qui est censé repérer ce genre de problème. Enfin bref. Et donc, elle s'est retrouvée dans XZUtils, dans SSH et dans plein d'installations Linux. Et comment est-ce qu'elle a été repérée? Elle a été repérée très vite, en fait, par un coup de chance absolu, par un développeur de Microsoft, qui n'est même pas un chercheur en sécurité, mais qui s'est rendu compte que certaines opérations de sa machine prenaient, mais vraiment, 5/10 de seconde de trop. Et il s'est dit, mais enfin, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Il y a trop de ressources qui sont utilisées. Même quand je fais une opération à vide, eh ben, il y a quand même une charge sur le processeur, mais une charge minimale, comme vous vous en doutez. Et il a été explorer le truc, il a été regarder la cause, il a fini par trouver ça et il a complètement détricoté l'affaire et il a réussi donc à trouver l'existence de cette backdoor qui donnait donc accès à l'ensemble de l'OS par le biais de cette petite brique qui avait été compromise. Et c'est ce qu'on appelle une supply chain attack. Une supply chain attack, c'est une attaque de sécurité qui arrive dans un système général par les composants, enfin la chaîne de production en gros, et là en l'occurrence c'est la chaîne de production logicielle, et en allant à la base de la chaîne de production logicielle, on réussit à affecter jusqu'au gros morceau, donc les OS carrément, les OS sont compromis. Et donc ça a été la panique dans l'univers de l'open source et dans l'univers totalement de la sécurité pour rétro-pédaler, revenir à une version, retrouver une version qui n'avait pas été affectée. Ça a été assez vite, heureusement, hein, et retrouver une version qui n'avait pas été affectée, et donc désinstaller les versions affectées, réinstaller les versions pas affectées. Ça s'est fait très vite, et ça a surtout mis, encore une fois, en lumière un problème qui est extrêmement important dans l'open source, qui est le fait que, justement, beaucoup de briques essentielles à des touts importants, jusqu'aux OS, sont développés et maintenus par des développeurs qui, parfois, se sont lancés par passion il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui ont développé ce truc que tout le monde trouvait hyper important, hyper bien fait, hyper utile, et que tout le monde a intégré. Et du coup, ils se retrouvent un petit peu coincés, ces développeurs, dans le fait de développer et de maintenir ces outils ad vitam, gratuitement, parce que c'est beaucoup de gens qui sont bénévoles et qui le font par passion, comme je le disais, parce que ces outils sont devenus indispensables à toutes les étapes de la production de ces grosses machines, de ces gros OS. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de ressources, ils sont fatigués, ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas reconnus ? Est-ce que ça veut dire qu'il suffirait que les grosses boîtes, et on parle de grosses boîtes, les GAFAM, hein, c'est vraiment pas, c'est pas juste des grosses boîtes B2B, on parle de toutes les grosses boîtes de la tech qui se reposent sur le travail de ces développeurs open source pour faire fonctionner leurs outils. Et c'est normal, c'est comme ça que ça devrait fonctionner dans l'open source, mais... Est-ce que c'est aussi simple que de se dire « Bon, bah, ces grands acteurs de la tech devraient contribuer plus financièrement, ils le font déjà, mais plus financièrement au développement open source ?» C'est sans doute pas aussi simple que ça. Par contre, à mon avis, ça ne ferait pas de mal non plus qu'il y ait un petit peu plus d'argent qui redescende, la théorie du ruissellement qui redescende pour le développement open source, qui est essentiel, comme je le disais.
Ah oui. Mais c'est intéressant parce que d'abord, ça met la lumière sur un truc qui est totalement silencieux pour l'essentiel des utilisateurs. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un utilisateur de TikTok réalise que sans Linux, il n'y aurait pas TikTok. Mais quand je dis il n'y aurait pas TikTok, il n'y aurait rien. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas le logiciel qui fait tourner le routeur qui amène ton paquet de données au serveur qui lui-même tourne sous Linux. Enfin, c'est-à-dire que moi, c'est amusant parce qu'on est assez vieux pour avoir vu les débuts de tout ça. Moi, je me souviens avoir installé Linux à partir de disquettes. Donc, si tu veux, ça te situe un peu. Voilà. Bon, c'était un peu héroïque déjà à l'époque, il faut le dire. Mais les premières versions de Linux, ouais, c'est ça. C'était bon. Et donc, il a fallu inventer l'infrastructure qui allait avec parce que c'est des systèmes qui sont devenus à la fois très importants en termes de taille et de nombre d'outils, etc. Et puis même plus qu'important, crucieux. C'est Linux qui fait tourner le monde. Enfin, je veux dire, voilà. Nous, on a des espèces de front-end avec du macOS, du Windows, etc. Mais c'est finalement pas très important. Ce qui fait tourner la machine, c'est quand même ça. Et on est d'accord sur le fait que
tourner l'Internet, tu veux dire. Windows, c'est pas Linux.
Oui, non, enfin, le monde, c'est l'Internet, c'est le monde. Ouais, enfin, voilà, c'est ça, ce qu'on prenne. Le monde numérique.
Je me suis fait engueuler parce que j'ai dit que Linux, une fois, c'était macOS. Alors, évidemment, c'est pas ça, c'est Next qui était un petit peu...
Oh la vache
hein, mais... Et je me suis fait engueuler. Oh, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est Android,
là, si tu veux rentrer dans Linux, si tu veux rentrer dans le délire de chapelle, tu peux dire, de toute façon, Linux, il y a Debian et il n'y a rien d'autre. Tu vois, voilà, bon, et là, c'est parti pour un tour. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que c'est évidemment hyper important et c'est des choses qui sont à bas bruit pour l'essentiel de la population, sauf pour les gens qui s'intéressent à ça. Et alors là, si tu veux, le garçon, comment il s'appelle qui a découvert la backdoor.
Andreas Freund.
Voilà. Lui, il faut lui ériger une statue, mais c'est une statue au nom de tous les geeks. C'est comment les geeks sauvent le monde. Parce que là, on a sauvé le monde, quasiment. Parce que de fait, en gros, c'était un outil qui allait être distribué dans toutes les distributions de Linux, de toutes les versions, de tout, et qui tout à coup créait une backdoor sur tous les systèmes où il était installé. Bravo. Et c'est intéressant parce que voir avec le bénéfice du recul comment ce truc est arrivé, parce que c'est pas juste un hack du tout, c'est vraiment l'insertion d'une backdoor dans un outil qui doit être vérifié par des gens, et l'opiniâtreté et la détermination et le temps passé, enfin, etc., c'est beau, hein. Enfin, je veux dire, c'est beau, c'est pas beau, mais c'est un joli travail, en tout cas, d'entrisme numérique.
Et je crois que je crois qu'effectivement, qu'il faut bien comprendre, c'est à quel point on l'a échappé belle, parce que ça aurait été une catastrophe. Enfin, une catastrophe, si on s'en était pas aperçu, personne ne l'aurait su, évidemment. Mais on aurait pu avoir accès à tous les serveurs Linux. L'acteur, on imagine que c'est un acteur étatique, on imagine que c'est la Russie ou la Chine ou la Corée du Nord. Voilà, il y a les usual suspects, on ne sait pas, mais c'est ce qu'on imagine. Ils doivent être bien frustrés que toute cette opération n'ait servi à rien au final, mais ça aurait été effectivement, et évidemment c'est pas un truc qu'ils auraient utilisé pour aller voir ce que fait Cédric dans son temps libre quand il s'amuse sur Red Hat Debian, tu disais, toi c'est plutôt Debian. mais ça aurait pu être utilisé pour faire de gros dégâts, quoi.
Alors, on a cette piste, évidemment, on dit finalement que les Russes, les Chinois, les Nord-Coréens, etc., Faut pas oublier que tu as des mafias entières pour qui, si tu veux, installer des backdoors dans des systèmes, c'est un moyen de gagner des millions, quoi. Donc il y a quand même un appât du gain qui justifierait ce genre d'opiniâtreté,
oui,
quoi. Donc voilà, faut pas aller trop vite. D'autant qu'il faut être lucide aussi. C'est-à-dire que une fois installée partout et une fois utilisée, cette backdoor, elle aurait été découverte.
Enfin, sans doute.
Que tout à coup, des gens auraient commencé à faire tourner la machine à saucisse à l'envers pour essayer de recréer le truc et de comprendre d'où ça vient. Et ils en auraient trouvé la source. Comme on en trouve la source de manière assez constante à chaque fois qu'il y a, alors là, pas forcément des backdoors, mais des bugs ou des failles de sécurité qu'on trouve, mais par dizaines, par centaines, tous les ans, sur des outils qui, eux aussi, sont sur tous les serveurs, enfin, tout ce qui permet d'insérer du code.
Là, c'est quand même une méthode qu'on n'a pas trop vue auparavant, un travail sur un temps aussi long et par ce vecteur. Et surtout, ce qui fait un petit peu peur, c'est qu'on se dit, bah, celle-là, on l'a trouvée par hasard. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la nature ? Est-ce qu'il y a... Et c'est difficile. Alors évidemment, rien n'est impossible, mais c'est difficile à repérer parce que ça va tellement à la base, aux fondations des briques logicielles. Et c'est tellement... c'est des situations de développeurs, des contextes tellement compliqués que c'est pas évident d'être, enfin il n'est pas certain qu'il n'y en ait pas d'autres dans la nature ou qu'il n'y ait pas, donc j'imagine que maintenant tout le monde est en train d'aller analyser chaque cycle processeur utilisé en trop sur toutes les versions de Linux du monde ou d'autres logiciels. Mais
c'est amusant, on dirait un scénario de film, tu vois, tu vois le type devant son ordinateur qui dit « Tiens, c'est bizarre, ce truc a pris une demi-seconde de plus. » Normalement, si tu veux, il aurait dû faire ça et puis retourner sur son film Netflix ou
c'est ça,
autre
oui,
chose,
c'est
mais
ça.
Là-dedans. Et attends, mec, mais moi je veux comprendre, mais attendez. Alors, allons voir le code source. Enfin, tu vois, c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est-à-dire que nous, moi, je serais bien en mal, si tu veux. Moi, je connais le fonctionnement de ces trucs sur le process de validation de tout ça, parce que c'est quand même c'est incroyable. C'est-à-dire que ce qui fait tourner l'Internet mondial, en gros, est quand même fondé sur le temps gratuit et la bonne volonté d'une communauté de développeurs, de validateurs, de etc., etc., qui, eux, passent pas leur temps sur Netflix ou TikTok, mais plutôt sur GitHub. et c'est remarquable, et ça fait 35 ans que c'est remarquable, quoi. Donc
c'est ce que j'aimerais qu'on retienne au final de cette histoire, c'est justement le travail de tous ces développeurs et développeuses qui contribuent à l'open source, alors en particulier sur Linux, parce que Linux est, comme tu le disais, l'infrastructure, la colonne vertébrale, et même plus, c'est les os et les muscles et les organes du net. Mais c'est ça, c'est que ça repose sur leur travail, qui est positif. Et encore une fois, l'idée n'est pas de dire « Oh mon Dieu, regardez toutes ces grandes boîtes qui profitent du travail de... » Alors il y a un peu de ça, et peut-être qu'elles devraient contribuer plus aussi.
C'est comme ça que
mais
ça
c'est
marche.
Voilà, c'est ce que... C'est ce qui fait que toute cette industrie a pu se développer. C'est pour ça qu'il y a des standards, c'est pour ça. Mais il y a clairement ici, je pense, une lumière qui est mise sur peut-être une déficience de soutien qui devrait peut-être être un petit peu plus important. Et j'imagine que c'est ce genre d'événement qui provoque un accroissement du soutien de ces... S'ils ne vont pas, tu vois, rajouter quelques millions chez Google et Apple... Suite à ça, ça serait un peu de mauvais
souvenir. Hein, c'est il y a 6 ans que Microsoft avait racheté GitHub pour quand même 7,5 milliards. Tu vois l'importance du truc. Et c'était à la fois pour être plus impliqué dans l'open source, mais je pense que c'était aussi un soutien à la cause, parce qu'évidemment, c'est des choses qui sont à bas bruit pour toi et moi, mais extrêmement importantes. Et c'est incroyable. Ces gens sont les unsung heroes, tu vois.
Ouais,
c'est vraiment
oui.
Les héros méconnus, ces gens dont tu ne connais ni le nom ni le visage, et qui font ça par pure passion. Moi, je me souviens au tout début de Linux, il y a toujours en France une communauté de gens qui d'ailleurs avait commencé par traduire toutes les pages de manuels de Linux à la main, tous les machins. Enfin, c'était
le merveilleux monde de l'open source, quoi.
Ah oui, enfin, merveilleux, jusqu'à ce que justement tu relances des guerres de religion, tout ça.
Oui, bon, ça c'est autre chose.
On leur laisse.
Donc voilà pour cette histoire de catastrophe évitée complètement par hasard.
Ouais, bientôt sur Netflix.
Mais ça pourrait complètement être un film.
Énorme,
c'est sûr. Parce qu'on a besoin de sujets, d'histoires et de textes pour créer, tout comme l'IA. Puisque... notre deuxième sujet du jour, l'IA engloutit YouTube, j'aurais presque pu dire. En fait, on a appris, il y a quelques jours de ça, que OpenAI avait visiblement, pour entraîner GPT-4, avait développé son outil Whisper, qui fait de la transcription audio en texte, pour aspirer 1 million d'heures de vidéos de YouTube pour pouvoir avoir du texte en plus pour entraîner ces modèles de langage. Pourquoi ? Parce que, on en parlait la semaine dernière, le texte commence à manquer. Les prévisions, alors c'est que des prévisions, mais les prévisions estiment que d'ici 2026, les entraînements de modèles d'IA auront consommé tout le texte de qualité, donc de qualité d'entraînement, créé par des humains sur Terre et dans l'histoire. Je vais y revenir dans un instant, mais du coup, en attendant, il faut trouver plus de textes de qualité, donc pas des réponses dans les forums ou des commentaires Twitter, hein, du texte de qualité qui peut être utile pour entraîner des modèles de langage. Et OpenAI s'est retrouvé face à cette impasse déjà il y a un petit moment, c'était en 2021-2022, et c'est pour ça qu'ils ont aspiré du texte de YouTube, 1 million d'heures environ. Google a eu vent de cette histoire, qui a été, le lièvre a été levé dans la presse, et ils ont dit, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? C'est totalement contre, si c'est le cas, c'est contre les conditions d'utilisation de YouTube, sauf que on a appris, en regardant d'un peu plus près, que Google faisait évidemment la même chose. Alors, ils font la même chose en demandant l'autorisation, ce qui est bien, mais ils ont aussi changé les conditions d'utilisation de certains de leurs outils et de leurs services comme Google Docs pour autoriser l'entraînement de leur IA sur les Google Docs publics, évidemment, pas les Google Docs privés. Donc, ils font la même chose parce qu'ils ont aussi besoin de texte. Meta, semble-t-il, aurait considéré l'idée de racheter Simon & Schuster, qui est un éditeur, on va dire en gros c'est un petit peu Hachette dans le monde anglophone. Pourquoi ? Pour avoir le droit d'utiliser leur texte sans contrevenir au copyright, les textes de leurs livres. Donc carrément, l'idée aurait été de racheter l'éditeur entier, juste pour ça.
Et on c'est pas rien, que... Simon & Schuster. Hein, c'est, pas,
c'est pour ça que je dis Hachette.
Et voilà.
Ils ont aussi considéré l'idée de l'utiliser, ce texte, pour entraîner les modèles de langage sans se soucier du copyright, et que ça serait plus simple de gérer l'histoire après et de gérer les procès éventuels. OpenAI aurait pensé à faire la même chose aussi. Donc, on a vraiment la concrétisation de cette idée que le texte nécessaire pour entraîner les IA vient à manquer. On pourrait parler aussi de la question de l'IA contrevient-elle au copyright en simplement lisant du texte pour s'entraîner ? Nous, on a le droit de lire du texte, hein ? On a le droit de lire du texte et d'en parler. Est-ce qu'une IA n'aurait pas le droit ? C'est une question qui n'est pas simplement simple à résoudre. Mais la première question que ça me pose, moi, cette idée de texte, c'est est-ce que vraiment ça améliore les modèles d'avoir tant de texte en plus ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un niveau de qualité qui est déjà standard ? Et est-ce que le fait d'avoir 1 million d'heures de texte de YouTube en plus, ça améliore les modèles ? Bah, la quête est tellement active, ils cherchent tellement de texte en plus que, visiblement, sans doute, oui. Moi, j'y connais pas assez techniquement, scientifiquement pour le savoir, mais ils en veulent tellement du texte en plus, ils sont tellement avides de texte que, sans doute, ça doit être utile. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est celle de l'après. Parce que 2026, alors oui, c'est une estimation, mais c'est pas si loin, si on a consommé tout le texte écrit par l'humanité en 2026, qu'est-ce qu'on fait après ? Eh bien, l'une des pistes, c'est l'idée d'utiliser du texte généré par des IA, du texte synthétique, donc généré par des IA, pour entraîner des IA. Alors évidemment, la première réaction,
C'est la singularité, ça y est, on y est.
C'est ça, c'est un entraînement infini.
Les robots sont meilleurs pour entraîner les robots.
Ça, le problème, c'est qu'évidemment, ça peut amplifier les problèmes qui existent déjà dans l'IA. On imagine que si une IA crée des textes avec des biais, des erreurs, ce genre de choses, bah, le fait qu'une autre IA soit entraînée sur le texte créé par des IA, ça risque d'amplifier ces problèmes. C'est ma première réaction. En même temps, ça semble être une piste sérieusement considérée par des gens qui s'y connaissent sans doute mieux que moi. Donc peut-être qu'il y a des moyens d'en tirer quelque chose ou que ça a amélioré certains aspects, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une des pistes qui est sérieusement étudiée pour continuer à entraîner les IA après l'humanité. Donc ça va, on est sauvés.
Voilà, l'humanité, c'est vrai. Après l'humanité, je crois que tu as tout dit.
Après l'humanité,
mais,
c'est
ça. Non, mais c'est vrai. Moi qui croyais, avec le temps, avoir perdu un peu de ma capacité d'émerveillement, si tu veux, je reste émerveillé. C'est-à-dire que moi, j'utilise ChatGPT pour 1000 choses maintenant, surtout pour me faciliter la vie, pour résumer des trucs, pour, tu vois, tu enregistres un meeting, enfin, pas téléphonique, mais un Teams ou un Google Meet, un truc comme ça, il fait une heure et demie, il y a 8 participants, et le lendemain, quelqu'un te dit, au fait, vous vous êtes dit quoi? Et ben voilà, ChatGPT est là, ou d'autres apps d'ailleurs, très bien, qui vont, un, transcrire, deux, résumer, trois, te sortir les 8 points saillants, et tu dis, tiens, voilà, c'est bon. Et là, tu viens d'économiser 2 heures de ta vie. Et puis, sa capacité, mais surtout, c'est l'instantanéité, moi, qui me troue, c'est-à-dire, je lui ai fait générer des poèmes en alexandrin, il m'a fait ça avec un talent absolument remarquable. Mais sa capacité à être un assistant de recherche, en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui va te résumer des problématiques, des trucs, etc., et te lancer des pistes créatives quand t'en cherches, c'est dingue, c'est juste dingue.
C'est marrant ce que tu dis sur l'assistant de recherche, parce que spécifiquement, il sera dans la newsletter, un article passionnant sur ce sujet spécifiquement, que j'ai lu il y a quelques jours, sur la manière dont des professeurs aux États-Unis utilisent l'IA comme assistant de recherche, un petit peu comme un assistant, c'est comme ça qu'il le qualifie, comme assistant de recherche, pour commencer à faire un dégrossissage de la notation de papier, comment, etc. Bon, je vous laisserai aller lire le texte, encore une fois, il sera dans la newsletter. Mais ils le font de façon très transparente et ils encouragent, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, ils encouragent aussi les étudiants à faire la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que le papier est écrit, ils les encouragent à les passer à la moulinette de l'IA et à voir ce qu'elle dit pour voir s'il n'y a pas peut-être des choses à corriger, etc. Mais évidemment, il faut garder la main dessus, mais ça leur permet de dégrossir le travail, d'améliorer, etc. Et il y a évidemment les préoccupations qui sont mentionnées aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc qui n'a que des aspects positifs inaliénables, il y a aussi des aspects négatifs dont tout le monde semble être conscient. Et puis, ce que ça m'évoque encore, c'est un truc dont on parlait la semaine dernière, donc on n'a peut-être pas besoin d'en faire trop sur le sujet, mais je serais curieux d'avoir ton avis aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que l'IA est une bulle qui ne sert à rien et que ça va s'évaporer de la même manière que les NFT ou les télé 3D ou tout ça. Et c'est marrant parce que souvent les mêmes sont ceux qui sont horrifiés à l'idée que les IA prennent le travail de tout le monde. Donc, de tous les artistes et machin. Donc, la dichotomie est un petit peu intéressante. Genre, ça ne sert à rien, ça n'a aucune utilité.
Ces deux positions ne peuvent pas coexister.
Alors que, concrètement, ce qui est surprenant, j'ai lu des articles disant « l'IA, de toute façon, trouvez-moi une utilité, je n'en trouve aucune. » Alors que, je t'en aligne 12, quoi. Déjà, alors peut-être que ça n'ira pas plus loin que ces petites créations pour faciliter un petit peu le travail d'un dé qui ne peuvent pas faire appel à des professionnels. Et ça augmente, je parle souvent de productivité depuis quelques semaines, quelques mois, parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Peut-être que ça se limitera à ça, mais même si ça se limite à ça, il y a déjà des usages concrets, clairs. Donc ce genre de réaction me paraît...
Mais non, mais bien sûr. Moi, je rallonge tous les jours la liste des professions qui vont être oblitérées par l'IA. Mais c'est pas juste, tiens, il va falloir, tu vois, travailler avec... Non, non. Oblitéré. Moi qui produis de la vidéo, beaucoup, Au début, moi je me souviens, il y a 3 ans, j'avais pris un abonnement sur un site qui permettait de générer des voix numériques, des voix digitales, mais c'était juste pour mettre des voix témoins sur un montage, tu vois, juste pour t'aider sur le rythme du montage, avant qu'une personne réelle, avec une voix, belle voix de radio, vienne poser sa voix. Je dirais pas que c'est terminé, mais là j'ai sorti 2 vidéos. Pour une, il me fallait une voix féminine avec un accent en anglais, mais avec un accent très british. Et j'ai sorti une voix chez Eleven Labs qui fait ça le mieux. C'était remarquable, surtout sur les intonations, sur l'émotion. On avait l'impression que quelqu'un avait lu le texte, avait compris l'intention du texte et jouait le texte avec la bonne émotion. Mais tout était remarquablement bien dosé, sans paramétrage particulier. Ça m'a pris 30 secondes à faire et ça m'a coûté, je ne sais pas, moins d'1 euro, enfin, peu importe. Oui. Et là, forcément, les gens qui disent « moi, je pense que je vais me destiner à faire des voix off », alors, non, arrête tout de suite.
Mais c'est ça qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que j'imagine bien que pour, je ne sais pas, le dernier docu super prestigieux de Netflix, bon, bah, tu vas continuer à prendre une voix qui a une qualité.
Tu continueras à aller embaucher Peter Attenborough, qui
voilà,
fait ça exactement. Très bien. Voilà,
veux la voix de Planet Earth, bon, voilà. Mais,
c'est ça.
Mais pour un petit projet de interne ou B2B, ou même un petit projet de com par une petite boîte qui essaie, bah, tu prends une voix d'Eleven Labs, comme tu l'as fait. Enfin, ça n'a aucune... Il n'y a même pas de question qui se pose, quoi. Donc,
Non.
Et c'est
non,
un
c'est,
truc...
C'est qu'en fait...
C'est
ce que je disais, c'est un truc dans la liste, c'est-à-dire que, tout à coup, ce que tu utilisais pour faire juste des voix témoins, pour prototyper, si tu veux, pour faire voilà, une maquette de quelque chose, tout à coup, tu te dis, bah, en fait, ça va, c'est pas la maquette, voilà, donc déjà,
ouais.
Et je pense à des professions de gens que je connais, traducteur, mon Dieu, mais traducteur, vraiment ? Non.
Ouais, c'est...
Et traducteur aujourd'hui, ça veut dire après-demain interprète. Hein. L'interprétariat, à mon avis, c'est le début de la fin. C'est terrible à dire parce qu'il y a des gens qui ont fait des professions et des carrières entières.
Évidemment, il y a des cas où, quand tu vas aller traduire une conférence à l'ONU, tu ne vas pas laisser ça, en tout cas à ce stade, aux mains d'une IA parce que tu veux être sûr qu'il y a quelqu'un qui vérifie, comprend le contexte, l'intention, tout ça. Mais quand tu es en train de faire un call avec un collègue quelque part qui parle pas trop bien la langue, voilà, peut-être que... Enfin, il y a mille...
Mais mille aucune usages. Hésitation.
Et ces gens-là qui se disent « Ah ben non, l'IA, ça va disparaître », je comprends pas, en fait. C'est juste une mécompréhension de la réalité de la technologie qui est sans doute expliqué par les NFT qui ont été une bulle, les crypto-monnaies dont l'utilité reste élusive, les télé 3D dont le marketing nous a dit « Oh mon Dieu, voilà, c'est les télé 3D qui vont changer la télé ». Voilà. Et les gens confondent ça, en fait. Et je le disais semaine dernière, je comprends un petit peu, mais en même temps, vous avez pas... il suffit de mettre les mains dans ChatGPT pour comprendre, de tester Suno pour comprendre. Enfin bon, bref.
Mais c'est même pas, je pense que c'est pas un manque de vision ou un manque d'intelligence ou quoi que ce soit. Je pense que là, on s'attaque à des choses qui sont de l'ordre des phases du deuil. Tu vois ce que je veux dire?
Ils en sont juste
à la phase de la négation.
Genre, non, c'est pas
de la négation, genre, non, jamais, plutôt crever jusqu'au dernier. après, ils vont passer à la suite, c'est-à-dire à, l'acceptation est bien loin, elle est tout au bout des phases du deuil, mais ils vont passer à la négociation, en disant oui, non, mais alors peut-être que, ouais, enfin voilà.
Mais tu sais, c'est marrant.
C'est des choses normales face à des choses qui renversent ton monde, en fait.
Oui, il y a un peu de ça. Je suis déjà en train de voir des gens qui étaient très, très anti dans nos environnements de la presse. Des gens qui étaient très, très anti et qui commencent à me dire « Alors ça, comment ça marche? Comment on fait pour comprendre ceci ?» Juste par curiosité, tu vois, un tout petit peu ça commence, donc c'est pas impossible. Je vais ajouter petites news avant qu'on avance. D'abord, un autre problème avec la recherche de contenu de qualité, c'est qu'il y a énormément de livres générés par IA qui sont en train d'arriver dans le monde, sur Amazon et d'autres. Eh bien, il semblerait que Google Books soit en train d'indexer des livres générés par IA, puisque Google Books indexe tous les livres publiés, et que le fait que Google Books les intègre, les ingère, bah, ça puisse affecter la manière dont on étudie le langage, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui utilisent Google Books pour étudier le langage. Donc ça, c'est un point intéressant. Et puis un autre truc intéressant, c'est des indices sur les coûts des données d'entraînement. Il semblerait que dans le cadre des deals pour l'autorisation d'entraîner des IA, selon defined.ai, les tarifs sont de l'ordre de 1 à 2 dollars par image pour avoir le droit d'entraîner une IA, 2 à 4 dollars par vidéo relativement courte et une centaine à 300 dollars par heure de vidéo, donc de vidéo plus longue. Donc vous voyez un petit peu le type de valeur que ça a pour trouver du contenu de qualité. Là, on ne parle pas en centimes. Hein. Ça commence, vous vous doutez bien que quand il y a
une base de données de
4 millions de photos, j'en sais rien, quand tu payes 1 ou 2 dollars la photo, ça fait cher, mais en même temps, pour des sociétés comme Google ou Apple ou Amazon ou Microsoft, bon, bah, quelques millions là pour entraîner un modèle de langage qui sera plus performant que celui des concurrents potentiellement parce qu'il a eu plus d'images, un modèle de langage, un modèle d'IA génératif d'images en l'occurrence, c'est de ça qu'on parle, bah oui, ça vaut peut-être le coup de mettre les clopinettes que représentent quelques millions d'euros pour ça. Bon, troisième sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est Apple invente la téléportation, messieurs, dames. Je fais de la provoque, mais en fait, même pas forcément tant que ça. Évidemment, on parle du Vision Pro d'Apple et d'une nouvelle option qu'on a avec les personas du Vision Pro. C'est quoi les personas ? C'est les modèles 3D qui reproduisent votre visage et votre tête et le haut du corps pour l'afficher au correspondant d'un appel téléphonique ou d'un call quand vous avez le Vision Pro sur la tête. Parce que si vous filmez avec votre webcam, bah, vous êtes un petit peu moche avec le Vision Pro et on voit pas votre visage. Donc, Apple a créé des reproductions 3D qui sont suffisamment réalistes pour vous ressembler et suffisamment pas réalistes pour être juste dans la vallée de l'étrange où c'est un peu moche. Eh bien, jusqu'à maintenant, il était impossible d'avoir une conférence avec plusieurs personas dans le même espace. Depuis quelques jours, Apple a commencé à faire tester ce qu'ils appellent le Spatial Personas. Ce que c'est, en gros, c'est un truc sur lequel travaille Meta depuis bien longtemps, c'est le fait d'avoir ces personas 3D dans votre espace quand vous êtes en call avec des amis. Donc, imaginez, moi j'appelle trois amis qui ont tous le Vision Pro, eh bien, au lieu d'avoir une fenêtre avec un appel FaceTime et une fenêtre que je peux déplacer, ces personnes sont dans mon environnement et apparaissent à côté de moi. Et donc, on a cette version d'un call où ça n'est plus sur un écran, mais dans mon espace, qu'on voit les gens. Et c'est pour ça que je parle de téléportation, parce que l'impression, c'est que les personnes en question se sont téléportées dans mon espace et, à l'inverse, moi qui suis aussi dans leur call, j'apparais dans leur espace. Et quand ça, si ça, ça fonctionne, pour moi, ça s'apparente à de la téléportation. De la même manière que le fait d'avoir accès à toute la connaissance du monde grâce au téléphone dans sa poche, c'est un petit peu de l'omniscience. Eh bien, le fait d'apparaître n'importe où ou de pouvoir se transporter n'importe où en ayant un environnement 3D réaliste d'un lieu dans lequel on n'est pas, bah, c'est un petit peu de l'omniprésence. C'est un petit peu de la téléportation. Encore une fois, c'est ce à quoi travaille Meta depuis un bon moment, mais ils n'ont pas encore réussi à l'implémenter d'une manière aussi convaincante qu'Apple dans ses premiers tests des Spatial Personas, parce que de l'avis des personnes qui l'ont testé, effectivement, ça fonctionne. Alors, ils ont fait des petits trucs malins pour éviter la vallée de l'étrange chez Apple. Par exemple, les modèles 3D sont un petit peu transparents, un peu translucides, un petit peu fantomatiques. Donc, on comprend bien, l'idée n'est pas encore à ce stade de reproduire la personne de manière photoréalistiquement fidèle en 3D. mais simplement de créer une présence de cette personne dont on comprend bien qu'elle n'est pas réelle puisqu'elle est un petit peu translucide, un peu fantomatique. Et ça marche. C'est-à-dire qu'on peut, au bout d'un moment, une fois la nouveauté passée, on peut commencer à avoir l'impression d'être dans le même espace que les personnes. On peut se déplacer un petit peu, parler, regarder dans un sens ou dans l'autre, et avoir l'impression de passer du temps avec ces personnes. Alors, il y a évidemment encore des soucis. Le modèle ne représente que la tête et les épaules. Donc, en dessous, bah, il n'y a rien. C'est vraiment cette impression fantomatique. Il y a quelques petits soucis comme cela. Mais, ceci mis à part, l'intention est accomplie. Et on a l'impression de passer du temps avec les gens. Et donc, pour moi, on est aux prémices, au début de cette promesse du métavers, qui est souvent raillé et souvent mal compris, je trouve, et j'en parle depuis maintenant 1 ou 2 ans. Cette promesse, c'est pas juste de mettre toutes les IP de Marvel et du jeu vidéo dans Fortnite. La promesse, c'est de permettre aux gens d'être dans des lieux dans lesquels ils ne sont pas et de rejoindre des personnes par cet effet de téléportation. Et bien là, on en touche les prémices. Et avec les Special Personas, ça fonctionne. Donc le jour où l'Apple Vision Pro sera disponible en France pour 3 500 ou 4 500 €, au moins vous pourrez faire ça avec quand vous l'aurez acheté et mis sur votre société. Vous pourrez au moins apparaître dans la salle à manger de vos amis. Pas mal.
Alors, t'as l'air convaincu, mais la vraie question, en fait, c'est est-ce que toi, tu vas l'acheter ? Est-ce que c'est le genre de choses qui te ferait l'acheter ?
Pas 4 000 €. On me dit dans la chatroom, c'est plus de l'ubiquité que de l'omniprésence. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas qu'on est partout en même temps, mais on peut en même temps être un petit peu... Bon, t'as raison, mais je m'accroche quand même. C'est plus joli de dire omniprésence, parce que ça va avec omniscience. Ouais. Mais bon, bref. Oui. Est-ce que je l'achèterais ? Pas à ce prix-là, non, et pas à ces usages, parce que ça reste encore trop limité comme usage, je trouve.
Ouais, d'accord.
Donc c'est pas. Mais par contre, ça me laisse envisager un moment où peut-être, potentiellement.
Donc ce n'est que le début.
Ce n'est que le début, je pense. Est-ce que ça te. Parce que, encore une fois, c'est les prémices hein, dont on parle ici.
Oui.
Mais est-ce que tu peux imaginer une utilité à ce type de technologie, ce type de sensation, finalement ? Au-delà juste du moment rigolo de la blague.
Mais c'est intéressant parce que c'est les prémices, mais c'est aussi la réalisation d'une promesse qu'on connaissait. Enfin, ça fait longtemps qu'on s'imagine projeté dans ce genre de situation. C'est pas une sorte d'innovation de rupture où ça fait un truc qu'on n'avait jamais imaginé. Non, pas du tout. Donc après, l'appétence pour ce genre de choses. Ouais, c'est amusant parce qu'il y a quoi, 20 ans, Cisco faisait ça, mais alors en version très compliquée, très chère, avec des salles de téléprésence. En gros, tu te retrouves dans une salle de réunion où devant toi, il y avait la moitié d'une table de réunion et l'autre moitié était projetée dans un truc où tu retrouvais tes interlocuteurs et avec un système hyper complexe, multicaméra, etc., où tu regardais les gens dans les yeux. C'était vachement bien fait. Ça avait le bénéfice de pouvoir se faire dans un environnement physique normal. Tu n'avais pas besoin de mettre un casque, etc., mais ça ne fonctionnait que dans une salle spécifique qui, elle, t'avait coûté des centaines de milliers d'euros.
Donc, mais c'est ça le problème, c'est qu'à force que ça ne fonctionne pas, les gens pensent que ça ne fonctionnera jamais. Et ce n'est pas forcément le cas.
Oui, non, tout à fait. Ça peut avoir plein d'utilités, même pour le travail, pour des réunions plus immersives. Et après, tu touches du doigt des choses qui sont de l'ordre de la limite physique. Hein, c'est parce qu'il y a toute une part de la population qui ne peut pas travailler avec ce genre de choses sur la tête, ça leur colle des nausées. Et deux, que l'autre part de la population ne va pas porter ça 8 heures par jour parce que on va engraisser les ophtalmos. Donc tu as quand même des problèmes physiques. Et puis, tu as un troisième problème sociétal, lui, c'est que je suis désolé, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que tu peux inventer plein d'accessoires que tu mets dans ta poche, à ta ceinture, où tu veux, voire dans tes oreilles. Mais les choses que tu mets sur ton visage ont un signifiant différent. Normalement, les choses que tu mets sur ton visage sont là pour...
Quand ça sera aussi fin que les lunettes que nous portons tous les deux, là, on reparlera. J'entends.
Ouais,
tu sais,
je suis d'accord.
En impro, on fait de l'impro au théâtre, on doit s'entraîner à ne pas dire non ou
oui.
Oui, mais on doit s'entraîner à dire oui et. J'entends beaucoup de oui, mais de ton côté. Je pense qu'il faudrait que tu t'entraînes à faire un peu plus de oui et. tu vois, pour être plus productif et constructif quand même.
C'est, bon. C'est amusant, tu dis mot pour mot ce que me recommande mon épouse régulièrement, qu'il faut que tu arrêtes de dire non. Mais je dis non quand c'est non, enfin je veux dire quand je suis pas d'accord et que je trouve qu'une idée est mauvaise, je le dis non, faut pas faire comme ça. Je dis, mais tu es là, tu viens de dire non. Bon, enfin bref.
Je pense qu'on s'entendrait bien avec ton épouse.
Ah oui.
Donc voilà pour Apple et la téléportation. Franchement, je suis intrigué. Mais du coup, ok. Avant de conclure, puisqu'on parle d'Apple, que penses-tu de cette nouvelle alors rumeur relayée par Mark Gurman, selon laquelle le fait que Apple ait abandonné la voiture ait été recyclé, non pas dans une autre type de voiture, mais dans un robot peut-être ménager. Pas de robot ménager dans le sens où c'est un Roomba qui fait le ménage, encore que pourquoi pas, mais un robot qui nous accompagnerait et qui ferait, alors, je ne sais pas, qui aurait un écran, qui ferait vous. Ils ont déjà fait ça chez Amazon et chez d'autres. Hein. Oui. Il y a plein de petites tentatives de robots personnels, on va dire, plus que ménagers. Et c'est vraiment à l'état de test hein, chez Apple. Ils sont en train de voir ce que ça donnerait. Mais est-ce que tu voudrais d'un petit Siri sur roulette qui te suivrait partout et qui te dirait... Je ne sais même pas ce qu'il pourrait dire, d'ailleurs. Peut-être que c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il pourrait dire ?
Est-ce qu'on peut commencer par améliorer Siri déjà ? Ce serait
ça, c'est au programme de la WWDC là dans quelques semaines. Oui, hein, donc, il prépare 2025 ou 2026 avec le robot. Ou
il serait temps. Un petit peu plus loin. Mais un robot domestique Apple, enfin, qui est en fait une représentation physique d'une enceinte connectée quasiment. Parce que est-ce qu'il aura des bras ? J'en doute. Ou plutôt la représentation.
Non, ça serait
d'un...
peut-être un truc roulant, oui. C'est pas avec voilà. Peut-être un bras pour attraper des trucs. On me dit dans la chatroom un Patrick roulant qui t'engueule quand tu dis non. Cédric, voilà. On dit oui, mais on dit pas non. Mais ou alors, encore mieux.
La question centrale, c'est est-ce que je vais l'acheter ? Jusque-là, la réponse
oui.
Est non.
Oui, pour... ah, mais, oui, mais. Non, pas, c'est, pardon, oui, c'est mais. Pas oui, mais c'est oui et. Oui et. Oui et,
oui, et non. Mais, oui, mais tu vas pas à l'Apple Store et on te dit vous voulez le nouveau Mac Studio ? Oui et en fait non. Voilà.
Est-ce que tu penses qu'ils ont assez d'enregistrements de Steve Jobs pour en faire une sorte de mini Steve Jobs qu'il parlerait avec la voix de Steve Jobs ?
Mille fois.
Du coup, il pourrait te dire « Cédric, you're holding it wrong » quand tu fais un truc
exactement.
Bête.
Ouais. Je pense qu'ils doivent résister assez régulièrement à la tentation de dire on pourrait faire renaître Steve. Juste pour
je
un
pense que ça serait le Rubicon, là. Franchement.
Ouais, c'est ça, ce serait le jumping the shark.
C'est ça.
Serait juste pour faire le one more thing.
J'avais prévu un jingle que j'ai jamais utilisé, je crois. On me dit dans la chat tweet oui et non merci. J'avais prévu voilà. Un jingle pour les sujets compliqués que j'ai jamais utilisé finalement. Mais c'était un jingle qui faisait
oui, mais non, mais oui, mais c'est compliqué.
Vous voyez, c'est ce genre de. Quand on parle bien. De sujets complexes et finalement je l'ai jamais utilisé, mais il est pas mal, je trouve. Oui, mais non, mais oui, mais c'est compliqué.
Très réussi.
Mes enfants essayent de lire, ils y arrivent jamais. Ils disent oui, mais non, mais c'est compliqué. Je dis mais. Juste enlève le nom. Juste oui, mais non, mais. Il n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait écouter tous ces jingles à ma femme et celui-là, elle l'a beaucoup aimé, tu vois. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Donc, voilà pour les sujets principaux de cet épisode. Mais ce n'est pas fini, évidemment. On a tout un tas de petites actus supplémentaires. Avant ça. Je voudrais vous encourager à aller voir sur Patreon, patreon.com/rdvtech, pour soutenir l'émission. J'espère que vous appréciez l'émission et j'espère que vous avez envie de me soutenir, en fait. Je vous parle souvent de l'émission elle-même, mais en écoutant Jack Conti, comme je le disais tout à l'heure, je me suis rendu compte peut-être d'un truc que j'avais un peu perdu de vue, c'est que... Enfin non, je le sais bien, mais la raison pour laquelle les gens soutiennent le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu, c'est, j'espère, en partie pour la qualité du travail, mais aussi, je pense, parce que vous avez envie de soutenir Patrick spécifiquement. Il y a cette idée des vrais fans, les « thousand true fans », vous savez. Alors, je ne sais pas si on peut appeler les auditeurs qui me soutiennent des fans, mais en tout cas, je pense que c'est des gens qui m'apprécient suffisamment pour vouloir contribuer à moi, ce que je fais et à ma personne. Donc, Si vous, vous appréciez mon travail, c'est super. Si vous m'appréciez, moi, si notre relation parasociale, qui est un petit peu particulière hein, dans nos vies, eh bien, vous pensez que je suis une personne qui compte un petit peu pour vous, on a une relation un petit peu particulière, bah peut-être que le fait de soutenir également mon travail serait une chose qui vous intéresse, qui vous séduit. Donc, si c'est le cas, allez voir sur patreon.com/rdvtech. Et je pense vraiment que la nature de notre relation, j'essaye d'être aussi... C'est un travail que je fais moi aussi, j'essaye d'être authentique, de rester vigilant sur la manière dont je tiens les promesses que je vous fais, sur la manière dont je travaille, dont je fais les émissions, et d'être moi-même. Donc, si vous voulez soutenir pour le travail et pour moi, patreon.com/rdvtech, quand vous arrivez à la maison et que vous mettez les clés dans le bol, vous savez ce qu'il reste à faire, vous dites, quand on dit en fait « Kling Patrick », c'est pas juste « Ah, Kling, le travail de Patrick », c'est « Kling, ah, oh, Patrick ». C'est genre, il a l'air sympa ce type, il est cool, j'aime bien la manière dont il traite les sujets, mais aussi, quand même, il a des yeux charmeurs, ou il a comment dire, c'est quelqu'un de sympathique, quoi. J'aime bien passer du temps avec lui, c'est un petit peu ça. Eh bien, moi, j'aime bien passer du temps avec vous également, donc patreon.com/rdvtech, si vous voulez contribuer à ma subsistance professionnelle et mon, comment dire, mon, c'est pas déploiement, mais mon, comment on dit, les fleurs le... qui se, c'est, tu vois, qui se...
Disons-le, contribuer au rayonnement de ta pensée.
Alors, j'irai pas jusque-là. L'église du Patrick's, mais un autre domaine d'activité.
Mais, ah, c'est un autre Patreon, celui-là.
C'est ça. C'est, alors, et il est, tu sais, c'est le truc exempt d'impôts. Comment tu sais, les religions ne payent pas d'impôts, c'est ça. Donc,
Notre-Dame de l'exemption perpétuelle.
Donc ça, c'est un autre. J'en parle dans d'autres émissions un petit peu plus secrètes. Allez sur WhatsApp pour voir les liens secrets. C'est des trucs qui disparaissent au bout d'une heure, tu sais. Pour voir où vous pouvez accéder à ce type de contribution. Non, évidemment, il n'y en a pas encore. Peut-être un jour. Mais pour le moment, c'est patreon.com/rdvtech. Je vous remercie tous et toutes de votre soutien.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on continue avec le reste de l'actualité.
Mais en même temps, l'église du patrixme, moi j'irai le dimanche. Hein.
Alors écoute, l'église du patrixme, elle a... pour les patriotes, on en parlait un petit peu dans la section Patreon qui a été supprimée, puisque vous, sur votre flou privé, vous n'avez pas les pubs, oui, ni les sections Patreon, mm-hmm, tout ça. Mais l'église du patrixme a plusieurs préceptes. Le premier d'entre eux, vous le connaissez, c'est « la justesse mène à la justice ». C'est un précepte important. L'autre précepte, c'est que nos jugements sont mesurés. Il faut mesurer nos réactions aux choses. On ne fait pas que... on n'est pas toujours à 11 sur 10. Vous savez, quand on voit quelque chose qu'on n'aime pas, bah, parfois, on ne l'aime pas à 3. Parfois, on ne l'aime pas à 7. Mais ce n'est pas toujours à 11. Et pareil avec ce qu'on aime. Il y a d'autres comme ça, différents préceptes dans le patrixme. Mais on sait bien que le plus important, c'est que Patrick a toujours raison. Et ça, c'est quand même le précepte. Mais c'est simple. Moi, je dis toujours.
Et quand si Patrick a tort, voire précepte précédent.
C'est ça, exactement, c'est ça. C'est que les choses seraient bien plus simples si on me demandait. Car quand il y a des questions, justement, qui amènent le type de jingle comme...
Oui, mais non, mais oui, mais...
mais c'est compliqué.
Bon, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à Patrick. On dit, oui, non, on sait pas trop. Patrick, c'est comment? Bah, je dis, voilà, c'est comme ça. Et c'est réglé. Et comme, selon le précepte qui dit que Patrick a toujours raison, et bah, ça veut dire que ma réponse est la bonne. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on applique. C'est le principe qu'on applique sur le Discord. Et je peux vous dire que le Discord, c'est un endroit super sympa. Donc, c'est pourquoi ne pas l'appliquer à des choses un petit peu plus vastes? Au hasard, le monde, par exemple.
Et voilà. C'est tous ces trucs que je poste en commençant la phrase par « moi président », virgule.
C'est ça, exactement. Bon, alors, moi président, peut-être que j'aurais bien voulu qu'effectivement, Apple ouvre son écosystème au store alternatif et il se trouve que c'est le cas, puisque le DMA, vous le savez, est actif. Et on commence à avoir les premières infos sur les premiers stores. Le premier d'entre eux, c'est Alt Store, qui est un store qui était disponible sur les iPhones jailbreakés. Et c'est un truc marrant. Il faisait beaucoup d'émulateurs, vous savez, de consoles, ce genre de choses. Et voyez-vous pas que Apple modifie ses conditions d'utilisation au moment où des stores qui proposent des émulateurs arrivent et pourraient faire concurrence à l'App Store d'Apple? Eh bien, Apple modifie ses conditions d'utilisation pour autoriser les émulateurs sur son propre store.
Quoi,
ne serait-ce pas un effet de la concurrence, messieurs, dames? Incroyable. Non, alors, évidemment, Apple dit, attention, vous êtes responsable de si vous mettez à télécharger des ROM qui sont soumis à la propriété intellectuelle. C'est vous qui êtes responsable, c'est pas nous. Donc, faites pas les idiots. Mais il n'empêche, c'est le genre la deuxième ou troisième catégorie de trucs qu'ils autorisent partout dans le monde sur l'App Store, alors que jusqu'à maintenant, ils y étaient férocement opposés, tout à coup, parce que ça pourrait être une alternative sur un autre store. Voilà. À côté de ça, pour installer un App Store alternatif, c'est possible aujourd'hui. Ça y est, l'Alt Store, si je ne me trompe pas, est disponible pour les gens qui ont installé la dernière version d'iOS. C'est un peu compliqué quand même, hein, comme on s'en doutait.
Ouais.
Cliquer 14 fois, oui, j'autorise, oui, je comprends que je risque ma santé mentale, physique, financière, tout. Mais c'est possible. On va évidemment parler un petit peu d'Elon Musk. Les tribunaux brésiliens ont ordonné à Elon Musk, enfin à X, à Twitter, de bloquer certains comptes sur Twitter. Sauf que, après avoir dans un premier temps dit « Oh, les tribunaux brésiliens nous ont ordonné de bloquer et ils nous ont interdit de dire de quoi il s'agit », eh bien, ils ont finalement dit « Ben non, on s'en fout, on ne va pas bloquer ». Et donc, ils rentrent en conflit avec la justice brésilienne. Et je pense que, enfin, c'est assez intéressant, comme plus fort que le rasoir d'Occam, c'est l'avis de Patrick. Oui, s'il vous plaît. C'est hyper intéressant.
Et modeste avec ça, c'est...
En même temps, quand on est dans l'église du Patrick, tu vois, c'est pas,
ben voilà.
On est déjà parti un peu loin, quoi. C'est intéressant ce truc d'Elon Musk parce que si c'était, c'est des choses qui arrivent régulièrement, des pays qui imposent des blocages ou des décisions à des réseaux sociaux. En l'occurrence, c'est un pays qui est dans une situation politique de l'après Jair Bolsonaro, donc l'extrême droite tendance MAGA, et qui du coup, on ne le sait pas concrètement, mais c'est dans l'ambiance politique, on imagine bien que le juge a demandé à X de bloquer des comptes qui diffusent sans doute, on imagine, des fausses informations ou au minimum de la propagande de ce camp politique, donc du camp de Bolsonaro ou de l'extrême droite brésilienne. On l'imagine bien. Du coup, on aurait tendance à dire, bon, bah, Elon Musk, qui est de cette tendance aussi, c'est pas surprenant qu'il essaye de combattre. Et puis, surtout, il défend régulièrement, et on imagine dans ce cas-là aussi, une des informations qui est patentée et qui est hautement critiquable. Mais sur le principe, l'idée de combattre une décision de justice qui demande le blocage d'un contenu sur un réseau social, eh bah, ça peut tout à fait s'appliquer à d'autres types de décisions de justice, de pays totalitaires, par exemple, qui font bloquer des gens qui défendent la liberté, l'égalité, la fraternité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est marrant de... La réaction est forcément négative, là, parce que c'est le contexte de Elon Musk, l'ami de Trump. Mais sur le principe, on a défendu longtemps Twitter, qui résistait autant que possible à ce type de décision de justice.
Oui, mais le problème, c'est que quand tu es implanté partout, bah, faut répondre aux lois du pays où tu es implanté. C'est de la difficulté d'avoir des principes et de s'y tenir. C'est-à-dire que, mais ça s'applique aussi chez nous, dans un contexte évidemment différent. Mais tous les gens qui font disparaître des pages web de l'index de Google, telles que vues chez nous, au nom du droit à l'oubli, par exemple, le font et Google ne t'affiche pas. Alors si, je crois que tu peux aller voir la liste des... Non, je ne suis pas sûr que tu puisses voir la liste des gens qui ont demandé, enfin, que tu puisses vraiment investiguer le truc, mais le fait qu'il y ait des choses qu'on te cache et qu'on te cache surtout qui a demandé de te les cacher ou le fait même qu'elles soient cachées, c'est pas nouveau, ça existe aussi dans des grandes démocraties.
Bon, autre sujet xien, au-delà du fait que Elon Musk est Elon Musk, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu un mini drama, même pas. Mais ils ont activé une nouvelle fonctionnalité qui donne aux personnes dont plus de 2500 followers ont les badges vérifiés, ont acheté, ont payé, et ben ils donnent le badge vérifié à la personne en question. Et du coup, il y a une nouvelle flopée de personnes qui ont reçu le badge vérifié sur X, sans l'avoir payé, et qui disent « Mais pourquoi je l'ai ? Je ne le veux pas, je ne suis pas, je ne contribue pas, machin, et tout. » Ça a fait un mini-drama, c'est plutôt drôle. Si tu as 5000 personnes, c'est-à-dire que c'est marrant parce que ça va un petit peu plus loin que juste la blague de « Il le donne à des personnes qui n'en veulent pas. » Je trouve que ça fait d'une certaine manière, c'est un autre moyen de légitimiser avec le badge vérifié des personnes qui ne payent pas pour, alors que l'idée de base de ce badge tel qu'il l'avait imaginé Elon Musk, c'était eh ben, c'est en payant qu'on va avoir le badge vérifié. Et là, ça redonne genre les personnes d'autorité c'est plus Twitter qui décide, mais il y a quand même un système de source, cette personne est très suivie par des personnes qui payent parce qu'il veut que les gens payent. Et donc, on lui donne le badge aussi. Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit, c'est pas un aveu d'échec non plus.
Non, c'est pas idiot. Je dois dire plutôt que de le faire de manière un peu aléatoire, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés en disant, je comprends pas pourquoi j'ai encore un badge bleu moi. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, c'est peut-être quelque chose qu'il aurait fallu faire au début, je ne sais pas. En fait, c'est pas tant parfois les décisions qui sont prises chez X que le timing qui va pas du tout. C'est pas sauvable cette histoire. J'ai beau le tourner, enfin c'est pas sauvable, mais c'est insubmersible en même temps. Donc
c'est vrai, c'est un petit peu. Et je t'avoue que je me passe de plus en plus de X. J'y vais régulièrement hein, quand même. J'apprécie le principe hein, plus que le réseau lui-même. Mais le principe, il y a eu quelque chose dans Twitter et on l'a utilisé pendant 15 ans tous, donc on le sait bien.
Oui.
Mais ce qui est marrant, c'est que je m'en passe de plus en plus. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je ne suis pas forcément... ça ne se reverse pas forcément sur Mastodon ou Blue Sky ou Threads ou machin. Je passe plus de temps sur Discord ou à m'intéresser à WhatsApp ou ce genre de choses. Alors peut-être que c'est temporaire, mais je me demande si c'est pas, tu vois, je suis au début de l'envisagement de l'idée que, bon, bah, on a eu notre bout de chemin ensemble avec Twitter, avec les short message services. C'était beau, mais maintenant, maintenant c'est fini, nos routes se séparent, tu sais.
J'ai besoin de voir d'autres gens.
Peut-être, ouais, tu vois, c'est un peu... Est-ce que tu es une personne de qualité, donc évidemment tu es un fan de Fast and Furious.
Confession du jour, je n'ai jamais regardé Fast and
Furious. Bon, faudra qu'on parle de ça à un autre moment.
Non mais tu peux le rajouter à la longue liste des films très connus que je n'ai pas vus. J'ai vu plein de films, j'adore le cinéma, mais j'ai là aussi avec mon épouse parfois des discussions lunaires où elle dit tiens, ce serait chouette de montrer ce film-là aux enfants. Et je dis bah oui, c'est bien parce que moi non plus je l'ai jamais vu. Et elle me dit what the fuck you've...
Mais
j'ai jamais vu Titanic. D'ailleurs, voilà un exemple. Je peux te citer tous les films que j'ai vus pendant ça, mais j'ai jamais vu Titanic. Du coup, évidemment, écoute, en droit de ligne, j'ai jamais vu Avatar non plus.
Mais bon, écoute, faudra faire un épisode spécial sur ce sujet. Mais Fast and Furious, c'est un peu particulier parce que c'est c'est pas les mêmes films entre du 1er au 3, c'est pas les mêmes films que du 4 au 10, tu vois. Et bref, dans le 6 ou le 7, il y a un truc qui se passe et on part sur des routes différentes, les gens comprendront. Mais c'est un petit peu, peut-être, je sais pas. Alors peut-être que moi, je vais revenir en arrière et dire « Non, non, reviens, c'est bon, je quitte tout pour toi, je me suis trompé, c'est possible. » Mais bon, pour le moment, je me dis peut-être qu'un jour, dans le futur lointain, peut-être que je pourrais imaginer la vie sans Twitter, c'est possible. Et Snapchat est un peu en train d'imaginer la vie sans le système solaire. Pas le vrai, hein, mais leur fonctionnalité système solaire qui dit quand les amis sont proches ou pas. En fait, ils l'ont, suite au rapport dont on parlait la semaine dernière, ils ont désactivé le truc parce que c'est angoissant pour les jeunes de se dire « Attends, le système solaire, c'est un truc qui place tes amis plus ou moins proches de toi en tant que planète dans le système solaire. » Évidemment, quand t'as un pote, c'est pas qui sont proches, c'est avec qui tu échanges beaucoup de messages. Et quand il y en a un qui se rend compte, mais attends, je pensais qu'on était super potes, et en fait, t'es Uranus tout loin, machin, c'était stressant. Donc, ils l'ont désactivé par défaut. Donc, bon, ils travaillent un peu à ça. Et puis, il y a Kiss, vous connaissez hein, le groupe Kiss, qui a vendu le droit à son image, sa personnalité, à la société qui organise les spectacles. Je crois que c'est ceux qui ont fait Abba Voyage. Vous savez, les trucs avec des
hologrammes.
Tout un show vidéo et des hologrammes, machin. Et Kiss, donc, oui, c'est ça, c'est bien eux, c'est Abba Voyage. Kiss a vendu tout son catalogue, toute son image et tout. Et du coup, l'idée, c'est Kiss existera pour toujours, parce qu'ils n'ont plus besoin de Kiss pour faire des concerts de Kiss. Et Abba Voyage, ça marche super bien. Donc,
c'est génial.
Je me demande, ça vraiment, la question, c'est... Est-ce que ça... faut quand même remplir la salle parce que c'est des spectacles live. Est-ce que ça marchera jusqu'à ce que tous les vrais fans de Kiss soient morts et après, bon, bah, c'est fini, tu vois. Ou est-ce que ça pourrait, genre, tu fais un spectacle Kiss ou je sais pas. Ou genre, le spectacle... S'ils ont les droits de suffisamment d'artistes, tu peux faire le spectacle des années 70, le spectacle des années 80 pour que les jeunes de 2080 découvrent les années 80 en live, dans leur Apple Vision.
Le vrai succès d'un artiste ou d'un groupe, c'est d'arriver à devenir transgénérationnel. Et c'est pas donné à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. C'est les Beatles et les Stones. Il y en a quelques-uns comme ça, mais ils sont pas très nombreux. Moi, je me suis fait la réflexion parce que je suis allé voir 4 fois Depeche Mode pendant leur tournée. Là, bref. Et à chaque fois, évidemment, je regarde la population qu'il y a autour et... C'est assez homogène dans l'ensemble, c'est-à-dire, on est dans la communion totale, enfin, c'est les Depeche Mode eux-mêmes appellent leurs fans de Black Swarm. et alors, c'est chouette parce que ça danse,
c'est pas
tout,
le
les
public,
bras en l'air et machin.
C'est pas le public qui regarde Zerator sur Twitch tous les soirs.
Non,
c'est ce que.
Non,
voilà.
Non. Exactement. Mmh. Et je disais dans un autre podcast que c'est quand même des gens qui avaient du mérite. Enfin, vraiment, ça bougeait à la fin. C'est chouette. Surtout que dans l'ensemble, maintenant, c'était plutôt des gens qui avaient des problèmes de prostate ou de. Enfin, tu vois. C'est-à-dire que générationnellement, c'était quand même assez homogène. Même si, j'ai emmené mon fils de 11 ans et j'ai vu d'autres gens qui le faisaient. Mais c'est difficile.
Mais en fait,
d'aller au travers de génération, et c'est ce qu'a réussi à faire un ABBA ou évidemment les Beatles et Stones, quelques-uns. Donc pour Kiss, je pense qu'on restera dans le domaine de la nostalgie.
Peut-être. Mais en même temps, si tu emmènes, c'est comme Pokémon, t'emmènes tes enfants voir Depeche Mode, peut-être qu'ils ils deviendront suffisamment fans pour aller voir Depeche Mode avec les leurs.
Alors ça marche mieux pour le jeu vidéo. C'est-à-dire que, évidemment... fils Oscar, je le mets devant... je me souviens, il y a très longtemps, il y a quelques années déjà, il y a 7-8 ans, quand Nintendo avait ressorti la petite Famicom en version, si tu veux, en version nostalgie, avec quelques jeux à l'intérieur, c'était la première fois que je mettais mon fils devant un jeu vidéo, mais évidemment, il avait quoi, 3 ans, 4 ans, et donc je lui donnais des jeux très simples, tu vois, où genre, il y a juste un bouton à appuyer, et lui, au bout d'une demi-heure... Je lui prends la manette quand même, je joue à un truc. Et il me dit, attends papa, je vais t'expliquer parce que tu vas voir, il faut que je t'aide. Petit con, va. Mais Super Mario, ça, tu vois, Mario Kart, c'est absolument transgénérationnel.
Oui, ça. Mais c'est des nouveaux jeux, tu vois.
Des nouveaux
aussi. S'il ne connaît que l'ancien, peut-être qu'il se contente de l'ancien. Mais je ne sais pas. Alors du coup, si on ne connaît que Kiss et qu'on ne connaît pas la musique depuis Kiss, peut-être que ça marchera. Il y a quelques sujets sur l'IA, mais celui que je vais évoquer, c'est une décision d'un juge dans l'État de Washington qui a interdit l'utilisation d'une vidéo améliorée par IA. En fait, il y avait dans un cas... c'est un meurtre, un triple homicide dont a été accusée une personne, dont les avocats ont essayé de présenter une vidéo qui était un peu floue, qui a été nettifiée, améliorée, enhanced par IA, et dont les avocats disent bah, ça montre clairement que, voilà, monsieur le juge, notre client n'est pas coupable. Sauf que le juge a refusé l'introduction de cette vidéo parce qu'il dit oui, enfin, ça a été amélioré par IA, mais on ne sait pas comment, quel processus a été utilisé, comment l'IA a choisi de changer tel pixel plutôt que tel autre. Et en plus, on sait qu'il y a des biais dans ces modèles d'IA, donc la vidéo n'est pas recevable. Ce qu'on peut comprendre, évidemment, mais c'est la première fois qu'une telle décision a été prise. Et donc, c'est un moment important dans les moments où ça compte. C'est une limite, on va dire, de l'IA. Alors, peut-être que si le processus est plus détaillé ou si j'en sais rien, dans d'autres conditions, ça serait accepté. Mais là, le juge a dit non, on ne peut pas la recevoir. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça met une limite aux usages de l'IA. On a tendance à dire, bah, du coup, l'IA, ça va faire tout comme ci, comme ça, machin. Mais non, on a encore le pouvoir de dire, pour tel ou tel truc, non. Là, on interdit l'utilisation de l'IA, on le contrôle, ou on... ce qui est finalement un des cadres de l'AI Act en Europe.
Ouais. Moi, je suis atterré parce que tu te rends compte tous ces bouts de, tu sais, des experts, tout ça. Tu sais, les moments où ils disent zoom dans la vidéo, maintenant, netifie-la. Voilà, ça y est, maintenant c'est net, on voit, ça y est, le coupable, tout ça était en fait irrecevable. Donc, c'est un monde.
Mais oui, c'est terrible. C'est terrible. Mais peut-être qu'ils utilisaient des versions plus avancées, recevables par le, tu vois, qui avaient été approuvées par le système judiciaire américain. Parce que peut-être que, à terme, pourquoi pas, une IA qui travaille avec le département de la justice pour montrer comment ils entraînent sans biais et qui reçoit le sceau d'approbation, eh ben, tu pourrais passer une vidéo floue à cette moulinette-là, spécifiquement, et la faire accepter. Donc peut-être que c'est ça qu'ils faisaient dans les séries où ils disent « Enhance !»
et que ça marche. Peut-être. En temps réel.
Oui. Johnny Ive et Sam Altman veulent $1 milliard pour faire un device IA. Bon, on verra ce que ça donne. C'est Johnny Ive, donc pourquoi pas, et Sam Altman, pourquoi pas. Lui, il veut lever combien, 14 trilliards pour ses
oui,
histoires.
Oui, c'est ça. En dessous de 1000 milliards, ça n'intéresse pas.
C'est ça. Microsoft est confident, alors ça c'est intéressant, semble avoir confiance dans Qualcomm suffisamment pour penser que les prochains processeurs Qualcomm, donc ARM, le Snapdragon X Elite soit plus performant que les MacBook Air sous processeur M3, qui sont les seuls, je crois, sous M3 à ce jour. C'est intéressant parce qu'il y a eu un décollage au niveau performance énorme avec les premiers processeurs d'Apple, M1, ouais. Les M1. Et puis après, alors c'est plus puissant, mais ça semble être en passe d'être rattrapé par d'autres constructeurs comme Qualcomm notamment. C'est notable. Et puis Google, alors d'habitude on dit oh, c'est Apple qui copie Google, voilà, enfin ils ont cette fonctionnalité qu'Android avait depuis 2011. Ben là Google est en train d'implémenter Find My Device, qui évidemment est une fonctionnalité de Apple depuis longtemps. En réalité, bon, ils se copient tout le temps l'un l'autre, hein, mais les Find My Device arrivent sur Android. C'est pas mal. Selon des documents officiels livrés à la FTC, on a appris que les revenus d'Instagram en 2021, c'était $32.4 milliards, les revenus pub, soit 27% des revenus de Meta. Pas mal. Mais ce qui est vraiment intéressant à noter, c'est qu'ils ont fait plus que YouTube en 2021, qui avait fait $28.8 milliards. Tu m'aurais demandé comme ça, spontanément. Alors, c'est 2021, ouais. Peut-être que ça a évolué depuis, c'est possible. Mais en 2021, qui a fait plus d'argent, qui a rentré plus d'argent. Ensuite, il y a les coûts. Hein, l'infrastructure de YouTube est infiniment plus coûteuse que celle d'Instagram, on l'imagine. Mais qui a rentré plus d'argent entre YouTube et Instagram, j'aurais dit bah, YouTube, évidemment. Bah, en fait, Instagram n'est pas que d'un peu, de 4 milliards de dollars.
C'est fou.
Incroyable.
Et surtout, c'est moins cher à faire tourner.
Bah oui, c'est ça. Donc, si tu vas au niveau des bénéfices, c'est plus juste des revenus.
En termes de rentabilité, c'est oui.
Juste un mot pour mentionner le fait que les législateurs américains sont en train de s'intéresser très sérieusement aux données privées et à réguler les données privées au niveau fédéral. Alors, il y a des gens qui disent du coup, est-ce que ça va passer au-dessus des lois des États, et certaines sont plus restrictives ou restrictrices que d'autres. Mais il semblerait, c'est marrant parce que en suivant un petit peu les commentateurs américains, tous disaient « Oh, mais regardez, pas tous, c'est pas vrai, mais certains disaient « Oh, aux États-Unis, ils font ci, ils font ça, c'est n'importe quoi. » Et on se rend compte que beaucoup d'autres pays sont en train de s'y mettre pour les questions de respect de la vie privée, de contraintes légales de respect de la vie privée. En l'occurrence, ça touche surtout les data brokers, donc les vendeurs de données qui les rachètent et qui les revendent ici et là. Mais les États-Unis aussi commencent à s'y intéresser après avoir beaucoup critiqué. Et puis, Uber Eats est en train d'utiliser des véhicules Waymo autonomes dans la zone de Phoenix. Alors, les voitures autonomes à Phoenix, ça marche pas trop mal parce que Phoenix, vous voyez les grilles carrées, bah c'est ça. Et puis c'est plat, et puis c'est très grand. Donc évidemment, ça marche là-bas. Et puis il fait beau tout le temps.
Il pleut très peu.
C'est ça. Phoenix, c'est en Arizona, hein, c'est le désert. Et c'est une ville qui est... J'y suis allé, je peux vous dire que c'est particulier. Mais,
c'est chiant, hein. c'est terrible. Hein.
C'est surtout, mettre une ville au milieu du désert, c'est bizarre, quoi. Tu vois, alors c'est pas cher parce que personne ne veut y aller, mais du coup, Enfin bon, bref. Peu importe.
C'est partie de ces villes qui n'existent que grâce à l'automobile et la climatisation.
C'est ça, exactement. Mais bon, donc Waymo, ça fonctionne à certains endroits, pas autant qu'on l'imaginait peut-être il y a quelques années, mais les véhicules électriques autonomes peuvent fonctionner. Et puis, Microsoft et Quantinuum ont eu une avancée énorme dans le domaine de l'informatique quantique en réussissant... Alors, les détails, je vous laisserai aller voir les articles, mais ils ont réussi à implémenter une correction d'erreur quantique fiable. C'est-à-dire que l'un des problèmes avec l'informatique quantique, c'est qu'il y a des erreurs qui sont introduites dans les relevés d'opérations. Et là, ils ont réussi à créer une méthode de correction d'erreur qui leur a permis de faire tourner plus de 14 000 expériences avec zéro erreur. C'est un problème qui était un problème au niveau de toute cette industrie de l'informatique quantique et qui donc est une étape importante pour le développement de l'informatique quantique. Et donc, je voulais vous en parler. Ça non plus, comme les véhicules autonomes, ça continue à avancer, c'est toujours pas mort. Et voilà pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Comme toujours, il y aura tout un tas de sujets, les sujets principaux et d'autres, dans la newsletter. Il y aura notamment la manière dont les vendeurs se plaignent des arnaques que font les acheteurs sur Amazon en retournant des produits qui ne sont pas les produits qu'ils ont achetés. Ça m'a fait rire au début, genre les marchands se plaignent. En fait, non, c'est pas drôle du tout et c'est un vrai problème. Il y aura l'article dans la newsletter. Huawei qui développe Harmony OS, dont on a là aussi un petit peu ri peut-être quand ils ont perdu l'accès à Android, ils sont en train d'atteindre des niveaux non seulement de sophistication de l'OS, mais surtout de part de marché en Chine, qui permettent à Harmony OS de devenir un concurrent sérieux, en tout cas sur le marché local, ce qui est intéressant, l'article dans la newsletter. Puis d'autres, il y a la manière dont certains outils IA sont vendus à des éditeurs de sites web pour adapter leur site aux personnes malvoyantes. Et en fait, les IA sont mal fichues et donc ça détraque tout. Et l'article est intéressant. Et puis, cet article dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'usage que font certains professeurs américains de ChatGPT, qui est hyper intéressant aussi. Bref, tout ça sera dans la newsletter pour vous y abonner. C'est sur notepatrick.com, vous avez le lien, ou alors dans les notes de l'émission directement. Merci Cédric d'avoir passé ce moment avec... Merci inénarrable Cédric d'avoir passé ce moment en notre compagnie. C'était évidemment délicieux. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech ?
Eh bien, sur X et Twitter, sur @Cédric. J'ai arrêté de donner mes identifiants de Blue Sky parce que je suis forcé d'avouer que j'y vais plus. C'est fort triste. Je suis sur Threads maintenant aussi.
Ça y est, t'as récupéré ton...
Ouais, ça y est, j'ai récupéré par l'action déterminée, délibérée, mais discrète de quelqu'un probablement chez Meta, l'accès à mon Instagram, ce qui m'a permis de récupérer l'accès à Threads.
Magnifique. Alors, c'est quoi ton nom sur Threads ?
Ah bah c'est comme partout, je crois que c'est un grand, enfin c'est vous me trouverez sans mal. Et
non mais je vais m'abonner sinon, pas, tu vois, c'est pour ça.
Ah. Et puis sinon, maintenant j'essaye de me tenir à faire.
Ah mais je suis déjà abonné.
Épisode même. Des doigts dans la prise, mais en fait tu étais déjà abonné à moi. J'essaie de faire tous les mois un épisode des doigts dans la prise. Les deux prochains vont être vachement bien, mais je peux pas vous en dire plus.
Oh, un petit teasing, très bien. Les doigts dans la prise. Vous pouvez aller vous y abonner. C'est un podcast de qualité sur tout ce qui tourne autour de
la voiture électrique, la voiture autonome et tout le reste.
Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick un petit peu partout. Vous trouvez tous les liens dans les notes de l'émission ou alors sur notepatrick.com, tout simplement. Il y a dans les notes le fameux groupe WhatsApp, enfin canal de diffusion WhatsApp sans toxicité parce qu'il n'y a pas de réponse. Par contre, je me rends compte que quand on est abonné à plein de groupes, celui qui vient de poster est tout en haut de votre liste. Donc en fait, il faut poster tous les jours, 10 fois par jour. Et c'est quelque chose qu'évidemment, je ne ferai pas. Donc soyez tranquille, il faut juste aller voir en bas de la liste pour voir ce que j'ai posté. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi le Patreon, patreon.com/rdvtech, et le Discord, et tous les mardis midi sur Twitch, et les jeudis midi, c'est le rendez-vous jeu, avec, comme je le disais tout à l'heure, peut-être la possibilité que sur les 2-3 prochaines semaines, il y ait une perturbation des flux, et que je ne sois pas aussi présent pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais en général, on est là. Et on passe un bon moment ensemble. Donc, j'espère que vous serez présents et en tout cas que vous serez présents pour écouter le podcast. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous très, très bientôt en vous envoyant d'énormes bisous. Ciao à tous et à toutes.